atteint l'Ukraine. À Kiev, c'est déjà le cinquième jour de guerre.
En fait, je découvre que l'être humain s'adapte à tout, aux sirènes, aux explosions, aux tirs. C'est terrible à dire, mais on commence à s'y habituer. Au fond de mon cœur, j'aimerais tellement que les soldats russes retournent chez eux pour retrouver une vie normale et heureuse.
Voilà pour le témoignage d'Anna, même pas 30 ans. Bonjour Michel Elchaninov.
Bonjour Pascal Claude.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de la philosophie russe et rédacteur en chef au Philosophie Magazine, auteur de plusieurs essais, dont en 2015 « Dans la tête de Vladimir Poutine » et votre nouveau livre sorti au début de l'année s'intitule « Lénine a marché sur la Lune ». Nous en dirons quelques mots ensemble dans quelques minutes. Pour nous défendre, aidons les Ukrainiens. Ça, c'est le titre de votre tribune publiée hier dans le journal du dimanche. Vous y dites « N'ayons pas d'illusions, Poutine ira plus loin ». Si on le laisse avancer, il ne reste aux démocraties qu'à s'opposer fermement à lui, au lieu de vouloir à tout prix dialoguer. S'opposer fermement à Poutine, ça n'est pas précisément ce que fait notamment l'Union européenne en ce moment, en renforçant ses sanctions, en décidant de livrer des armes à l'Ukraine, Michel Elchaninov ?
En effet, pour le moment, on voit l'Union européenne très déterminée. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il semble que les dirigeants donc, ont compris la menace qui n'est pas seulement sur l'Ukraine mais qui est sur toutes les démocraties européennes. Et c'est vrai que la décision de livrer des armes aux Ukrainiens sans état d'âme, une aide humanitaire massive, l'interdiction du survol pour les compagnies russes du territoire européen, l'interdiction des officines de propagande du Kremlin, tout ça, pour l'instant, montre que les dirigeants européens semblent véritablement comprendre la gravité de l'enjeu.
C'est suffisant ?
Écoutez, en tout cas, c'est une réaction qui montre à Poutine que l'Europe ne réagit. Et ça, c'est fondamental parce que Vladimir Poutine a toujours considéré que les Européens étaient faibles, impuissants, divisés. Il a tout fait d'ailleurs pour les diviser. Donc cette réaction, pour l'instant, je trouve, elle montre que l'Europe peut aller plus loin, peut livrer autre chose que des avions de chasse, ce qu'elle va faire dans quelques jours. Mais c'est important psychologiquement pour que Poutine comprenne que l'Europe n'est pas exactement ce continent décadent et faible qu'il décrit à longueur de discours depuis des années.
Ursula von der Leyen a également dit son soutien à l'adhésion à l'Ukraine, de l'Ukraine à l'Union européenne. Elle l'a dit ces dernières heures. C'est une déclaration importante, ça ?
Ben oui, parce que ça montre que même politiquement, si l'Ukraine adhère à l'OTAN, ça sera aussi différent pour Poutine, puisqu'il attaquerait un pays de l'Union européenne, même si l'Union européenne, ce n'est pas l'OTAN, comme on sait. Mais voilà, donc je trouve que pour l'instant, la réaction, elle est tout de même forte, et elle est importante, puisqu'il y a une guerre psychologique aussi qui se joue dans les premiers jours de cette guerre.
Vous dites que Poutine risque d'aller plus loin. Quel est son projet ? Il veut s'emparer de toute l'Europe ?
Alors, il veut, en tout cas, mettre l'Europe sous son influence. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, il travaille l'influence russe de son idéologie nationaliste, conservatrice depuis des années déjà. Il a des partis qu'il soutient dans tous les pays d'Europe. Et lui, il verrait bien l'Europe comme une sorte de protectorat, c'est-à-dire des démocraties faibles, divisées, une Union européenne qui serait de toute façon, qui n'existerait plus sous les coups de boutoir de ces divisions internes. Donc il ne s'agit pas forcément d'envoyer des troupes russes à Bruxelles ou à Paris, mais plutôt d'avoir des hommes liges. C'est un peu ce qu'il compterait faire aussi en Ukraine aujourd'hui. Il compte mener une invasion pour détruire ce pays, pour décapiter la direction élue démocratiquement et installer à la place de Volodymyr Zelensky un homme pro-Kremlin. Donc voilà, l'idée c'est véritablement de dire que la Russie est une grande puissance, qu'elle a vocation à dominer le continent européen.
Mais d'un point de vue territorial, il y a un enjeu précis ?
En Ukraine, il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'en Ukraine, Poutine considère que l'Ukraine est un État artificiel et que jusqu'au Dniepr, c'est-à-dire jusqu'à Kiev, l'Ukraine est russe. Ensuite, les idéologues du Kremlin disent que l'ouest de l'Ukraine, c'est une sorte de zone folklorique qui n'a pas d'intérêt géopolitique. Mais d'un point de vue territorial, en tout cas, il y a la volonté de s'emparer au moins de tout le territoire qui sépare donc la frontière ukraino-russe jusqu'au Dniepr, ville sur laquelle se trouve Kiev, la capitale.
Dans la tête de Vladimir Poutine, vous avez publié ce texte en 2015. Est-ce que celles et ceux qui disent que Poutine est fou ont raison ? Michel Etchaninov.
Écoutez, c'est très difficile à cerner. D'un côté, Poutine est extrêmement cohérent dans son discours. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié ses discours depuis l'an 2000, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et il dit depuis des années que l'Ukraine, pour lui, n'existe pas, que l'Europe est complètement décadente, que l'OTAN est un ennemi. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence. Alors, vous allez me dire que la cohérence n'exclut pas la folie. C'est-à-dire qu'en effet, il y a l'impression d'un enfermement dans son univers psychique, dans un autre récit, un récit où la Russie serait victime de la haine que lui voudrait l'Occident. Et Vladimir Poutine s'est enfermé dans une idéologie. Donc, je ne sais pas si c'est de la folie, mais en tout cas, Vladimir Poutine s'est enfermé dans une idéologie, dans une vision de la Russie et du monde qui est totalement coupée du réel. Et donc, c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que y avait aujourd'hui un artiste qui est contre la guerre en Russie qui dit que Poutine est parti dans les étoiles. C'est-à-dire qu'il se rend pas compte qu'une partie du peuple russe est opposée à la guerre, que l'Ukraine, les Ukrainiens vont résister. On a l'impression qu'il est davantage mu par des grandes idées un peu grandioses et un peu folles que par le souci de la réalité.
Vous dites qu'il est parti dans les étoiles, et ce qui nous permet justement d'établir un lien avec votre nouvel essai qui a pour titre « Lénine a marché sur la Lune ». Vous nous présentez un mouvement né à la fin du 19e siècle appelé le cosmisme, qui est un mélange de recherche scientifique, de métaphysique et de mysticisme. Un mouvement qui est né en Russie et qui a comme ambition par exemple de tuer la mort ou de coloniser l'espace. Poutine, dans ses discours, il cite des cosmistes. Alors dites-nous, en quoi est-ce que ce mouvement influence la politique russe actuelle, la vision du monde et de la vie de Poutine, Michel Elchaninov?
Bon, alors c'est vraiment un mouvement très très peu connu, en Occident presque pas connu. Et il est incroyable. C'est-à-dire que ça fait 150 ans qu'il y a des savants, des philosophes, parfois très connus, hein, Dostoïevski par exemple, le grand écrivain russe qui s'intéressait à ça, qui disent voilà, il faut la science va pouvoir vaincre la mort, on pourra rester immortel, et comme il n'y aura pas assez de place sur Terre, il faudra aller coloniser l'espace. Et donc, c'est intéressant parce que Vladimir Poutine a cité plusieurs fois dans ses discours un homme qui s'appelait Konstantin Tsiolkovsky, qui est un savant autodidacte russe des années 1920, et qui considérait que l'homme immortel devrait aller vivre dans l'espace, et donc il construisait des fusées déjà, enfin des modèles de fusées. Et ce Konstantin Tsiolkovsky est devenu un peu la figure tutélaire de la conquête spatiale russe. Et aujourd'hui, Poutine le cite, il a d'ailleurs baptisé une ville du nom de Tsiolkovsky, la ville où allait s'installer la nouvelle base spatiale russe, et Elon Musk aux États-Unis, l'homme le plus riche du monde, qui veut lui aussi faire créer l'immortalité pour l'homme, cite ce même Tsiolkovsky. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ce courant bizarre, mystique, occulte, mal connu, inspire aujourd'hui un chef d'État nationaliste comme Poutine, qui est parti sur la Lune dans sa tête, si on peut dire, et puis un milliardaire transhumaniste comme Elon Musk. Donc c'est vraiment un mouvement à découvrir, et j'ai raconté cette histoire dans cet ouvrage.
Mais quel lien précisément établir, Michel Elchaninov, entre le cosmisme et ce qui se joue aujourd'hui, cette invasion russe en Ukraine ?
Je crois qu'il y a l'idée que dans la culture russe, dans une partie de la culture russe, la Russie doit être plus qu'un pays. Elle doit être une idée. Et c'est ce qu'on appelle le messianisme russe. Alors c'est quelque chose d'assez dangereux, parce que finalement, on dit qu'un pays doit finalement apporter une forme de lumière au monde. Bon, la Russie n'est pas le seul à avoir ce défaut. Hein. La France aussi peut l'avoir, les États-Unis. Mais là, la Russie dit « nous apportons au monde une idée grandiose de l'homme ». Poutine dit que nous allons coloniser l'espace pour le bien de l'humanité, pas pour notre propre désir de domination. Donc il y a cette idée que la Russie doit apporter quelque chose au monde. Et c'est totalement paradoxal, parce qu'aujourd'hui, Poutine dit depuis 15 ans que la Russie va apporter au monde des valeurs morales, chrétiennes, etc. Et aujourd'hui, pour imposer ses valeurs, il fait la guerre et il tue des Ukrainiens qui sont, comme il le dit lui-même, des gens très proches des Russes. Donc ce transhumanisme russe, ce messianisme, sont des choses qui sont à la fois, qui exaltent les esprits, mais qui sont à la fois très difficiles et très dangereuses à manier surtout.
Ouais, et c'est à découvrir dans votre nouvel essai passionnant qui a pour titre « Lénine a marché sur la Lune ». Merci beaucoup Michel Elchaninov d'avoir été en direct avec nous ce matin sur la première. Bonne journée à vous. Il est 7h23.